Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable spéciale Coupe du Monde de rugby. Et pour m'accompagner ce soir, Pierre Forest, Christian Prost et Thierry Cornaille. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous allons décrypter tous les matchs du week-end pendant 45 minutes. On commence dès à présent avec le groupe A. C'était vendredi matin pour nous, la France qui a battu l'Uruguay. Une victoire 27 à 12. Une victoire quelque peu poussive, j'ai l'impression, face à des Uruguayens qui étaient largement à notre portée. Thierry Cornac, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de l'équipe de France ?
Très déçu. Je l'avais dit la semaine précédente de ne pas s'enflammer après la victoire contre les All Blacks. D'abord, bravo à l'équipe d'Uruguay, qui a quand même agréablement surpris, un peu comme le Chili dans un autre groupe. L'Uruguay qui a quand même plutôt bien joué, qui avait une bonne organisation de jeu, aussi bien défensive qu'offensive. Il faut rappeler qu'il y avait la moitié de l'équipe qui joue en France, dans des clubs des deux, mais en tout cas qui sont des joueurs professionnels et donc d'excellent niveau. Et là, moi j'étais d'ailleurs très agréablement surpris, ils ont marqué le plus bel essai de la partie, voilà, avec
un début de match
fabuleux, voilà, vraiment une leçon, j'allais dire, presque de rugby, où trois Français se sont retrouvés les fesses dans le gazon. Sur cette action. Donc bravo à l'Uruguay. Et puis l'équipe de France, très décevant. Voilà. Alors on peut toujours passer à côté sur un match. Moi je trouve quand même que c'est presque une faute professionnelle de perdre un match, de ne pas perdre, parce qu'on a quand même gagné.
Oui, il y a la victoire quand même au bout.
Mais de ne pas avoir le point de bonus, c'est quand même. Et je pense que cela peut jouer en plus au classement final. Première chose, moi, que je pense, c'est que les Français n'ont pas respecté l'adversaire. Et ça, je crois qu'en rugby, c'est aussi fondamental. C'est de pouvoir respecter d'abord son adversaire. Et puis ensuite, des remplaçants. Donc, il n'y avait pas de collectif. Voilà, match un petit peu décousu. Pas de capitaine, vraiment, sur le terrain. Malheureusement, Jelonge, qui est un bon joueur, mais il n'avait pas joué depuis 6 mois. Donc, il ne fallait pas non plus attendre des monts et merveilles de ce joueur. Et donc, on a finalement relevé qu'on n'avait pas deux ou trois équipes de même valeur, comme j'ai pu l'entendre, qu'on a une équipe type avec quelques bons remplaçants, mais qu'on n'a pas une deuxième équipe B, comme ça, qui la remplace.
Donc, quand les cadres ne sont pas là.
À surveiller, voilà. Maintenant, on commence. Moi, je reste très optimiste, mais il va falloir battre les Italiens de manière impérative. Mais en même temps, si on ne bat pas les Italiens, ce n'est pas la peine d'espérer d'aller plus loin, quoi. Donc, je reste optimiste, mais du coup, il va falloir jouer un vrai huitième de finale contre l'Italie et ne pas perdre.
Christian Prost, vous êtes d'accord ? L'équipe de France n'a pas respecté
l'Uruguay ? C'est d'avoir donné la parole à notre ami avant moi, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. J'ajouterai deux petites choses. Si la Coupe du Monde de rugby, ce n'est pas une information, est un vrai succès populaire, sur le plan rugbystique, c'est quand même un peu moyen.
Il y a trop d'équipes ?
Ce match en a un peu l'illustration, mais il y en a eu d'autres. Je défendrai un peu Jelonge, qui est un excellent joueur, mais qui n'a pas le charisme d'un capitaine. C'est pas un capitaine. Or, moi, je connais pas de grandes équipes sans capitaine, sans grand capitaine.
Ça va.
Regardez dans l'histoire derrière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, et on s'est aperçu qu'effectivement, on peut se flatter par rapport à d'autres équipes d'avoir un banc. Mais est-ce que le banc est aussi bon que. Parce que quand il dit. Trois équipes, comme certains le disaient, j'étais dans les certains.
Voilà. Vous êtes senti visé ?
Non, je ne me suis pas senti visé, mais c'est un constat que j'ai fait. La première ligne, à côté de la première ligne titulaire, quand on pense en plus à ceux qui vont rentrer, là, donc Marchand ou Baye, c'est nul. Voilà, donc il n'y a que Jelonge, peut-être, qui a un peu sa place là-dedans. Mais, donc le banc est riche, mais pas aussi bon.
Il faut qu'il soit encadré, quoi.
Qu'on aura pu le penser, quand tu changes un joueur, ça va. Et autrement, le premier groupe est égal à moi. Moi, je suis assez satisfait parce que j'avais fait toute une prospective et j'avais dit France, Nouvelle-Zélande, premier groupe France, Nouvelle-Zélande, un trouble fait, Italie. Et on est en plein dedans.
L'Italie qui n'a pas joué ce week-end.
Ouais, mais on est en plein dedans. Un trouble fait, Italie.
Pierre Forest, vous, sur ce match de l'équipe de France, il y a eu trop de changements, selon vous, de fait de la part de Galtier, d'un seul coup ?
Alors, je crois qu'il faut faire confiance à l'encadrement de l'équipe de France, qui, jusqu'à maintenant, nous a donné satisfaction, que ce soit lors du tournoi Destination. Je ne partage pas tout à fait l'avis de mes collègues, sinon on serait tous d'accord et il y en a un qui pourrait que parler, mais je pense qu'on a pris ce match. Bon, il y a eu les changements, peut-être trop de changements, mais il y a quand même des joueurs de valeur qui sont dans ce groupe-là. Je pense que c'est peut-être l'avoir battu les Blacks d'entrée, on s'est cru arriver, ça c'est typiquement français. Mmh. Donc quand on rejoue derrière une équipe soi-disant faible, on ne s'est peut-être pas préparé dans les bonnes conditions pour aborder ce match-là. Et puis on s'est mis en difficulté d'emblée devant une équipe qui n'avait rien à perdre et qui, mettez-vous à la place des Uruguayens, jouait les Blacks en premier, qu'ils ont joué, et en deuxième...
Non, ils vont jouer les Blacks au prochain match.
Au prochain match, mais je veux dire, ouais, voilà, ils jouent deux les Blacks et les Français. C'est rêvé, quoi, pour des joueurs comme ça. Donc, voilà, donc, c'est un faux pas, mais je pense que ça y est, ils ont retenu la leçon. Et puis, on verra la composition de l'équipe au prochain match, contre la Namibie. Le seul, je partage aussi le fait qu'on n'ait pas gagné le point de bonus, qui va être, sinon décisif, lors du dernier match contre l'Italie, où il va falloir gagner à tout prix, parce que ça, ne pas gagner contre l'Italie, qui nous a déjà battu lors des tournois des Six Nations, va nous mettre en difficulté pour la qualif.
Alors, on parlait des joueurs qui n'ont pas forcément brillé sur cette rencontre-là. Il y en a un quand même qui a brillé, c'est le Calédonien Peato Mauvaka. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, non, c'est une satisfaction, Peato, hein, mais je crois que maintenant, on a l'habitude. Il nous déçoit jamais, hein, sur ces matchs, donc c'est vraiment une valeur sûre. On a deux excellents talonneurs en équipe de France, donc c'est une chance. Mais par contre, j'ai trouvé des lacunes individuelles, hein, notamment à l'aile, des erreurs défensives individuelles flagrantes, quoi, qui sont absolument... Et là, encore une fois, on parlait de Jolon tout à l'heure, qui n'a pas joué pendant 6 mois, mais Villiers, c'est pareil, il n'a pas joué pendant de nombreux mois. C'est sûr qu'il ne peut pas retrouver le niveau comme ça en un match ou deux matchs qu'il avait précédemment. Et donc, des lacunes quand même individuelles, des erreurs défensives. Alors, c'est à la fois individuel et collectif, hein, la défense. Mais on fait beaucoup de fautes. Voilà, on fait, je vois, une quinzaine de fautes encore, 15 pénalités contre nous. Et puis on prend encore 2 essais. Quoi. Voilà, donc y a quand même, il faut corriger le tir. Si vraiment on veut avoir, je rappelle toujours, même si on bat l'Italie, on tombe contre eux, ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Donc, deux très très gros morceaux de quart de finale, il va falloir faire un autre match que celui qu'on a fait, parce que on s'est enflammé, hein, un peu trop à mon avis contre les Blacks, mais rappelons-nous, en première mi-temps contre les Blacks, on ne méritait pas de mener. Hein. Voilà. Et donc, c'était un petit peu un score chanceux qu'on avait eu. Hein. Les Blacks avaient marqué dès le début du match contre nous, et nous, on n'avait pas marqué contre les Blacks en première mi-temps. Hein. Donc, attention, voilà, je pense qu'il y a un clignotant qui s'est allumé. Après, on le sait tous, hein, 2 mois de compétition, c'est extrêmement long. Il vaudra mieux être en forme en quart de finale que d'être en forme dans les matchs de poule. Voilà.
Christian Prost, sur cet effectif...
Ah ouais, chaque fois, il vous coupe
l'herbe sous le pied.
Je voudrais simplement moi aussi souligner, parce qu'il y a une chose qui m'a frappé, ces équipes comme l'Uruguay que j'ai vu jouer, moi, à Montevideo, devant 2000 personnes ou 3000 personnes. Vous vous rendez compte de l'aventure qu'ils partagent aujourd'hui?
C'est ce que disait Pierre, c'est un peu le match de leur vie, quoi.
C'est le match de leur vie. Et c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose, parce qu'on s'aperçoit qu'en rien à foutre, ils veulent briller un match, donc ils fatiguent d'autres équipes de top niveau, ils en blessent de temps en temps, mais ils s'en foutent, ils ne sont pas venus pour gagner.
Si, là, ils veulent la 3e place qualificative pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde.
Oui,
peut-être.
Voilà, mais même, ils s'en foutent, ils ne pensent pas à ça.
Je crois que pour les soi-disant petites équipes, hein, soi-disant petites équipes comme l'Uruguay, comme la Namibie, etc., c'est la seule occasion pour ces petits pays-là et ces petites équipes de se confronter à l'élite du rugby mondial. Parce que l'organisation des différents championnats dans leur pays ou dans leur zone géographique ne permet pas, en dehors des équipes européennes qui ont le tournoi des Six Nations, en dehors des équipes de l'hémisphère sud qui n'engolent pas tout le monde, l'équipe de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie,
l'Afrique du Sud,
l'Argentine. C'est pas tout à fait l'hémisphère sud, enfin, quand je m'entends en Pacifique Sud, il aurait mieux peut-être valu, je pense, pour rehausser le niveau, intégrer des équipes, on en parlait tout à l'heure, comme Fidji, comme Samoa, comme Tonga, de la même manière en Amérique du Sud, ces petites équipes, l'Uruguay, le Chili, C'est la compétition de leur vie, parce qu'en dehors de ça, ils n'ont rien d'autre à se mettre sous les dents. La seule équipe qui dispute le Fornition, c'est l'Argentine. Voilà. Donc, tant mieux que ces équipes-là, puis c'est plaisant. Hein, un match comme Samoa-Chili, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. C'est extraordinaire, c'est à l'occasion d'une Coupe du Monde.
On y reviendra tout à l'heure, effectivement, la victoire des Samoa. On va terminer avec ce groupe A, la Nouvelle-Zélande, qui a largement battu la Namibie. Là, il n'y a pas eu de match, Christian. C'était vraiment promenade de santé pour les All Blacks.
Là aussi, je connais assez bien la Namibie. Je veux dire, ils sont pillés par l'Afrique du Sud toutes les intersaisons. Il n'y a pas de match SCD. C'est des descendants de huguenots protestants qui sont là-bas, bien installés, dans des grands élevages et des machins comme ça. Oui, le rugby, ils jouent au rugby, mais c'est pas...
C'est pas une nation forte. Ils sont meilleurs à 7, je crois.
Voilà. Hein?
Ils sont meilleurs à 7, il me semble, non?
Je ne suis pas bien le rugby à 7.
Ils y sont. Ils sont à 7, ouais.
Voilà. Ouais. Mais autrement...
Est-ce que pour ce match-là, Fabien Galthié devra aligner son équipe type ou alors encore faire tourner?
Il y a deux considérations à avoir. Les Irlandais arrivent à la Coupe du Monde avec 22 matchs. Les Français arrivent à la Coupe du Monde avec 35. Donc, le problème pour l'entraîneur est quand même un peu difficile. La France est à un championnat épuisant, à un programme épuisant. Alors qu'eux, ils font... L'Uruguay, on peut reprocher, ils ne se voient pas beaucoup, ils ne jouent pas beaucoup ensemble. Mais d'un autre côté, ils ont eu 8 mois de vacances. Tu vois, je veux dire, c'est...
Physiquement, ce n'est pas la même
chose. C'est délicat à choisir. Et là, il devra choisir. Fabien Galthié, c'est un choix difficile pour lui. Arriver dans les dernières phases avec des joueurs qui jouent bien ensemble et qui sont encore un peu frais, ça va être difficile.
Pierre Forest, sur cet effectif qui doit tourner ou pas face à la Namibie, à votre avis?
L'analyse que j'en fais, c'est qu'il y a au moins trois critères sur lesquels l'encadrement va s'appuyer. Il y a le critère de maintenir certains joueurs au rythme, etc. C'est vrai que l'équipe type qui a joué et battu les Blacks, on ne peut pas la garder jusqu'à l'Italie. Ça fait trois semaines sans match, c'est pas pensable. En même temps, il y a des joueurs blessés qu'il va falloir remettre, c'est le moment ou jamais.
Et on parle de Danti et Baye qui pourraient faire leur retour.
Oui, c'est ce qui est prévu. Normalement, ils devraient revenir. Danti, Baye en pilier gauche, Danti centre, et puis Jelonche qui va enchaîner peut-être une autre mi-temps. Et puis s'assurer que et puis le bonus offensif, parce que on peut pas continuer à battre des soi-disant petites équipes sans engranger du bonus offensif, ça, qui va être déterminant pour la suite du match contre l'Italie.
Thierry Cornaille sur cet effectif.
Non, bah, d'abord un petit mot sur la Namibie. Je trouve que c'est surtout les Blacks qui ont fait leur match. Voilà, donc attention, les Blacks seront au rendez-vous. Hein, il faut pas les oublier.
C'est pas parce
les
qu'ils
Blacks,
ont perdu contre la France.
Ils peuvent très bien aller jusqu'en finale. Hein, donc d'abord, et puis ces petites équipes, oui, c'est frustrant. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont fait le match de leur vie, notamment pour l'Uruguay. Ben moi, je trouve quand même qu'il y avait une organisation de jeu assez sensationnelle, défensive, offensive. C'est pas du tout un hasard, c'est pas le match de leur vie. Ils ont fait un bon match. Et en effet, comme le disait Pierre, hein, il faut absolument que ces équipes intègrent les tournois destination ou le championship. On le voit bien avec l'Argentine. Hein. L'Argentine est devenue une nation forte du rugby quand elle a intégré le championship. Hein.
Pareil pour l'Italie avec le tournoi destination.
Et l'Italie, elle va s'améliorer. Et l'Italie sera de plus en plus dangereuse. Donc, c'est important qu'il se... Voilà, donc, la Namibie, oui, c'est pas une grande nation du rugby, mais bon, ils font leur match. Je crois qu'ils sont tombés surtout contre une grande équipe de Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 71-3.
Sur les effectifs, parce que je n'ai pas répondu, c'était la question. Il faut jouer au rugby. Hein. On ne peut pas rester...
Pour garder le rythme.
Ben oui, il faut quand même... Alors quand on ne joue pas 80 minutes, c'est évident. Quoi. Mais je rappellerai quand même que ça fait 4 ou 5 mois qu'il n'y a plus de championnat. Hein. La plupart d'entre eux ont arrêté au mois de mai. Quoi. On est en septembre, ouais. Et donc il faut qu'ils jouent. Quoi. Il faut qu'ils aient du rythme. Et on voit bien, les autres équipes n'ont pas fait de changements aussi importants, n'ont pas mis une deuxième équipe sur le terrain. Donc il faut que les titulaires jouent, peut-être pas tout le match, bien entendu, hein, 40 minutes, 45 minutes, mais je crois qu'il faut qu'ils jouent.
Hein. Et donc la France qui affrontera la Namibie, ce sera vendredi matin à 6h pour nous, et avant cela, dans la nuit de jeudi, Italie-Uruguay à 2h45, on suivra ça évidemment. On passe au groupe B avec deux résultats du week-end, l'Irlande qui a largement battu Tonga 59-16 et l'Afrique du Sud qui n'a pas fait de détails hein, contre la Roumanie 76-0. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux matchs-là, Christian Prost?
Moi, sur la deuxième chose, la première, j'avais dit France-Nouvelle-Zélande, un trouble fait l'Italie. Sur le deuxième groupe, je dirais Afrique du Sud-Irlande, un trouble de fait l'Écosse.
L'Écosse, ouais, qui était exempt ce week-end.
Les bonus vont compter, défensif ou offensif. Je crois que le moulinet, la machine à broyer d'Afrique du Sud est quand même, reste quand même favorite. Je reviens sur la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud ne fait pas partie de ces équipes qui sont... Elles sont presque arrivées comme l'équipe de France au top niveau de la préparation. Alors que la Nouvelle-Zélande, je rejoins, ils sont arrivés en deuxième phase de préparation. Et ils vont arriver dans les phases finales en préparé, à fond. Donc pour là, je trouve l'Afrique du Sud... L'Irlande, moi, m'a jamais séduit, que ce soit dans le... C'est un peu comme... c'est l'Irlande qui troublait le jeu en 70. Ça ne m'a jamais vraiment séduit. Là, je ne les vois pas aller très très loin, même s'ils passent. Mais j'ai trouvé qu'il y a une belle équipe d'Écosse. C'est comme l'Angleterre. Pour moi, il y a une surprise quand on va y venir, c'est Fidji. Mais il y a aussi l'Écosse et l'Angleterre. C'est aussi inattendu.
Thierry Corneille, sur ce groupe B, il y a deux équipes qui surnagent. On attend le match de dimanche.
C'est vraiment pas de chance pour l'Écosse, quoi. Ils tombent sur les deux équipes. Mais ce tirage au sort est assez frustrant parce que les deux poules, en fait, c'est les quatre meilleures équipes du monde. c'est vrai qu'il y en a deux qui vont passer à la trappe en quart de finale. Voilà, c'est un peu frustrant. Mais en effet, l'Afrique du Sud devient vraiment une espèce d'épouvantail, hein, très très fort. Peut-être l'Irlande a un niveau moins élevé. Hein, je pense d'ailleurs que pour la France, il vaudra mieux tomber sur l'Irlande que sur l'Afrique du Sud en quart de finale, si on le fait. Mais c'est deux grosses équipes. Hein, voilà, l'Écosse, malheureusement, et puis les Tonga, un petit peu en dessous, mais on le supposait déjà un petit peu avant, et donc n'a pas été à la hauteur des espoirs. Quoi, voilà.
Face à l'Irlande, Pierre Forest.
On attend avec impatience le prochain match hein, entre les deux, hein, comme vous avez dit. Donc l'Irlande, évidemment, la meilleure équipe au monde. Hein, c'est pas pour rien qu'ils sont classés premiers.
Oui, mais on attend dimanche.
Ils ont gagné.
6h du matin.
Ils ont gagné le tournoi.
On s'appelle à 7h, 7h30.
D'accord. Donc ça va être un beau match contre les champions du monde en titre. Hein, d'accord. Et donc, mais l'Écosse. N'oubliez pas, il y a encore un match Écosse-Irlande derrière.
Ouais.
Donc
ouais.
Ça, c'est des matchs, ils ont des revanches à prendre. C'est le tournoi destination BIS qui se déroule à l'extérieur. Donc c'est ni en Irlande, ni en Écosse. Donc ça se déroule en France. Donc l'Écosse, contrairement aux prévisions, je pense qu'il va jouer les troubles faites après ce match-là. Donc oui, il y a l'attribution de la première et de la deuxième place avec ce prochain match. Il y avait... C'est difficile. Là. Les forces et les faiblesses. L'Afrique du Sud, Christian a parlé d'un broyeur. C'est vrai que c'est très physique. Ils ont un paquet d'avant costaud. Les Irlandais aussi. Peut-être la différence, c'est avec le demi-mêlé de Clark, qui est, je pense, c'est sa Coupe du Monde. Après Dupont, je ne vois que lui comme qui pourrait challenger Dupont à la mêlée. Et peut-être une petite faiblesse de cette équipe-là, c'est qu'ils n'ont pas de bons buteurs. Si on compare un petit peu les matchs précédents, ils ont beaucoup de points vendangés, que ce soit sur des pénalités ou des transformations. Chose, par exemple, qu'en France, on a un bon buteur, on a le meilleur demi-mêlée du monde, on a un paquet d'avant qui était la route, voilà. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui... Puis évidemment, il y a toujours le fameux carton jaune qui reste jaune, ou qui carton rouge, ou le jaune qui devient rouge. Ça va jouer aussi dans les différentes équipes, dans les différentes rencontres, voilà.
L'Irlande-Écosse, ce sera le dernier match de poule le 8 octobre, donc ça pourrait être un match déterminant.
Ah oui, mais je vois pas ils se sont jamais aimés, hein, les deux, là, entre les Irlandais et les Écossais.
Ouais. Non, c'est un vrai huitième de finale, la France-Italie.
Exactement, c'est un huitième de finale.
Ouais. Sur donc, l'Irlande et l'Afrique du Sud, a priori quand même favori de ce groupe, il y a la Roumanie qui dispute sa première Coupe du Monde, le sélectionneur roumain qui a demandé à jouer plus de matchs contre les meilleures nations pour arriver mieux préparé. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Christian, c'est que
oui,
les petites équipes
je crois
sont pas assez préparées.
On a pris les penchants, voire les défauts de la Coupe du Monde ou des championnats de football. c'est-à-dire qu'on a pléthore d'équipes, où les gens viennent pour briller une fois, pour blesser les gens, pour fatiguer les gens, puis ils se foutent des phases finales. Et ça, je trouve emmerdant. Je pense qu'il faudrait faire une Coupe du Monde préparatoire d'entre les équipes, ce qu'on appelle les petites équipes, et ils en qualifient 8 avec les 8 meilleurs du monde. Voilà. Et on arrive à une Coupe du Monde. Mais là, ils se qualifient, je sais, le Chili, comment il s'est qualifié, hein, je connais bien aussi ce pays. C'est pas un pays de rugby, hein. C'est pas. Et je rejoins tout à l'heure ce que disait notre ami, comment ça déjà ?
Thierry.
C'était pour le vexer un peu. On a remarqué, nous, dans le mouvement, la montée de l'Italie au niveau.
Européen.
C'est quoi ? C'est les joueurs, la Franchi, Drogherigorio, Zani, c'est les joueurs qui sont venus dans les championnats de haut niveau. La montée de leur. Ça vient beaucoup de là, tu regardes. Toutes les équipes qui montent, ils ont un pléthore de joueurs dans notre championnat ou dans le championnat anglais encore, toi que je suis moins bien. Voilà. Et je crois qu'il faut laisser ce temps au temps. Voilà.
Et pour vous, Thierry Cornaille, est-ce que équipes comme la Roumanie doivent jouer plus de matchs de haut niveau ?
On a oublié, à la différence du Chili ou du Uruguay, qui sont des équipes un petit peu nouvelles, la Roumanie était un ancien pays du rugby. Hein. C'était la bête noire de l'équipe de France il y a 30 ans. Hein. Voilà, ouais. C'était la bête noire. Hein. Donc, il y avait d'excellents joueurs roumains qui étaient vraiment redoutés. Et l'équipe de France tremblait lorsqu'elle jouait la Roumanie. Hein. Et donc après, pour des raisons économiques, politiques, etc., ce pays s'est un peu enfoncé dans une crise et donc a entraîné également tout le sport. Mais les Roumains, oui, méritent véritablement d'être intégrés peu ou prou au tournoi des Six Nations ou à un autre tournoi, mais en tout cas, avoir un jour la possibilité, ce qu'on avait toujours refusé, parce qu'ils étaient au niveau il y a 25 ans, et on avait refusé qu'ils rentrent au tournoi des Cinq Nations à l'époque et qu'ils fassent la sixième nation. Donc il n'y a que comme ça qu'on arrivera à développer le rugby et que le rugby devienne un vrai sport universel. Mais on ne pourra jamais faire des Coupes du Monde à 40, hein, c'est pas possible, pour des raisons physiques, ça c'est pas possible. Donc là on est déjà très limite sur deux mois, avec un match toutes les semaines, c'est déjà un petit peu compliqué, donc on ne pourra jamais. Mais par contre, il faut élever le niveau des équipes dites petites aujourd'hui, hein, et qu'il s'agisse de l'Europe ou qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud, il y a certainement un potentiel. Voilà.
20 équipes c'est trop déjà ?
Non, c'est difficile de le faire moins. Ah, mais on ne pourra pas en faire plus. Par contre, il faudrait relever un petit peu ces équipes qui sont classées entre la 10e et la 20e place. Voilà.
On parlait de la Roumanie, il y a la Géorgie également qui postulait un moment pour être dans le tournoi Destination. C'est un peu une nation, c'est une belle nation du rugby aussi.
Nombreux Géorgiens en partie devant. Hein.
Il y a déjà des éliminatoires dans ces différents pays. Là,
mais entre eux.
En Europe. Des éliminatoires pour être qualifiés pour la Coupe du Monde. Oui. Donc quand on voit le Portugal, n'était pas qualifié, c'est l'Espagne qui était qualifiée. Malheureusement, l'Espagne a fait jouer un joueur qui n'était pas éligible, qui est plutôt français qu'espagnol, et donc ils ont marqué 0 points, et c'est pour ça que le Portugal. Donc il y a déjà des éliminatoires, comme l'Uruguay est sorti devant avec le Chili, mais il y avait déjà des éliminatoires.
Dans chaque zone, il y a des éliminatoires, évidemment.
Mais la volonté du rugby en général, et le droit de rugby, puisqu'on parle de l'organisation de la Coupe du Monde, c'est de développer un maximum la discipline sur l'ensemble des pays du globe. On ne sait pas se contenter simplement des quatre équipes du Four Nations et puis des tournois destination. Sinon, on le connaît, ce niveau-là. C'est bien. Moi, je suis plutôt pour avoir une Coupe du Monde à 20, à 4 poules de 5. C'est très bien. Je pense que c'est un bon ratio. Ça permet de. Il y a juste le tirage au sort, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, qui est dommage, parce que les quatre meilleures équipes du monde se retrouvent dans les deux premières poules et vont s'annihiler dès le quart de finale. C'est dommage.
Alors, dans le groupe B, on annonce les prochains matchs. Afrique du Sud, Irlande, on en a déjà parlé. Donc, dimanche à 6h du matin, rendez-vous à ne pas manquer, j'ai l'impression. Et puis, Écosse, Tonga, ce sera lundi matin de la semaine prochaine à 2h45. On va marquer une petite pause de publicité et on revient pour débriefer les groupes C et D. À tout de suite.
RRB, la pub. Chez Dynatech, choisissez votre solution en énergie renouvelable. Nouvel arrivage, profitez de la dernière génération de panneaux photovoltaïques. Dynatech, votre partenaire pour choisir votre installation photovoltaïque avec ou sans stockage de lampadaires solaires autonomes. Études et devis gratuits au 27 50 70.
Vous voulez embarquer avec votre vélo dans le Néobus ou circuler à vélo sur la voie Néobus ? C'est possible ! Mais attention, il y a des règles à respecter. Le vélo en Néobus, c'est ok, mais seulement en dehors des heures de pointe. On embarque par la troisième porte, juste après le soufflet. Pendant le trajet, on reste debout sur la zone réservée aux personnes à mobilité réduite et surtout, on tient bien son vélo. En pédalant sur la voie, d'abord, on reste très prudent et on roule toujours à droite. Ensuite, aux intersections, sécurité d'abord. On met pied à terre et on utilise les passages piétons. Du 16 au 22 septembre, votre vélo est Néobus, ça roule.
La Maison de la Batterie, le spécialiste du démarrage, voiture, camion, bateau. Distributeur Vartal à qualité allemande, numéro 1 en Europe. La Maison de la Batterie à Ducos, téléphone 27 97 97. Monsieur Bricolage vous offre l'heure.
Radio Rythme Bleu, il est 17h29.
Je sais pas si je suis très claire.
Vous comprenez ?
Ça vous parle ?
Chez Monsieur Bricolage, on comprend toujours ce qu'attendent nos clients. Surtout ce qu'on voit souvent.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Radio Rythme Bleu.
La suite de votre semaine formidable en compagnie de Morgane Boucher et ses invités.
Et en compagnie de Pierre Forest, Christian Prost et Thierry Cornaille, exactement pour débriefer les matchs de la Coupe du Monde du week-end. On a déjà parlé des groupes A et B, mais on va revenir un instant sur le groupe A puisque nous sommes en ligne avec Manu Jalabert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en métropole, vous avez assisté au match Nouvelle-Zélande-Namibie ce week-end. Comment était l'ambiance sur place ?
L'ambiance était fantastique. Il y avait vraiment beaucoup de chaleur à tous les sens du terme. Ça chantait, c'était très sympa.
Même si il n'y a pas eu trop de... en tout cas, le score est assez large. Donc, il n'y a pas... la Nouvelle-Zélande a largement dominé.
Oui, il n'y a pas eu de suspense. De toute façon, en allant voir ce match, on savait ce qu'on allait voir. C'est-à-dire les All Blacks ont décliné leur jeu et sans trop d'opposition. Quoi.
Alors comment ils sont ces All Blacks ? Parce qu'on les a vus un petit peu, pas en difficulté, mais quand même les Bleus les ont battus lors du match d'ouverture. Comment vous les avez sentis, vous, ces Blacks ?
Assez variable, hein, c'est-à-dire ils étaient capables du meilleur comme du pire. Il faut juste espérer que la prochaine fois qu'on les rencontre, ils ne nous sortent pas le meilleur. Quoi. Voilà.
Parce que c'est là, forcément une équipe qui est favorite.
Ben oui, mais parmi les favorites, je pense que c'est la moins favorite. C'est-à-dire entre la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Irlande, je pense pas qu'elle puisse aller plus loin que les quarts de finale, moi, la Nouvelle-Zélande.
Ah, je crois que ça va faire débat autour de la table. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Je regarde Christian Prost qui a placé la Nouvelle-Zélande favorite. Mais sinon, autour de cette Coupe du Monde, comment est l'ambiance en métropole ? Il y a une effervescence autour de ces matchs, même si là, c'était pas un gros match. Mais la Nouvelle-Zélande, ça fait toujours parler. Il y a toujours des spectateurs.
Ah oui, là, il y avait beaucoup de Français habillés avec le maillot des Blacks, notamment mon fils. Mais les gens jouent le jeu. La France est vraiment à fond dans le rugby en ce moment. En tout cas, le sud de la France, le nord, je sais pas. Mais en tout cas, Toulouse, Bordeaux. Et là, je viens de voir Fidji, Australie hier soir. Et c'était fabuleux, quoi, parce que les gens font la fête. Même s'ils sont pas fidjiens, tout le monde s'embrasse. Les Australiens, les Fidjiens, les Français. Enfin, c'est vraiment une communion, quoi. C'est quelque chose de bienvenu pour la France, en fait.
Alors justement, on va parler d'Australie-Fidji. C'était un match du groupe C. Autour de la table, Thierry Cornaille, Christian Prost et Pierre Forest. Les Fidji, vous en aviez fait des troubles fêtes, je crois, tout le monde, hein, plus ou moins. Thierry Cornaille, sur Fidji, c'est presque pas une surprise de voir cette victoire face à l'Australie.
Ah non, pour moi, c'est pas du tout une surprise. Ah. Pourtant, quand le pays classé 9e mondial bat le 7e mondial, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. Hein. Donc, et je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, que moi je voyais les Fidji en quart de finale, et peut-être même plus, parce qu'ils sont dans une bonne partie de tableau. Quoi. Donc c'est vraiment l'année ou jamais les Fidji peuvent émerger. Je crois qu'ils ont toujours un jeu débridé, voilà, mais quand même de plus en plus rigoureux. Et tous les joueurs fidjiens jouent en Angleterre ou en France. Hein. Et ils ont vraiment des joueurs de classe mondiale, quoi. Voilà, ce qui n'était pas le cas de toutes les équipes. Et donc, moi, je ne suis pas surpris. Je crois qu'ils avaient été véritablement volés, on peut le dire ça, dans le match contre le Pays de Galles.
Hein, oui, ils avaient failli déjà créer la surprise.
Ils avaient été battus injustement, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et donc non, c'est pas une surprise, ils confirment. Hein, et j'espère bien qu'ils vont gagner leur prochain match et pouvoir se qualifier dans un groupe très homogène, hein, notamment si l'Australie perd, elle est éliminée. Et si elle gagne contre le Pays de Galles, ça va être une égalité à 3. Et donc là, l'importance des points de bonus, et des différences de points pour départager les trois équipes, le cas échéant, si l'Australie bat le Pays de Galles.
Christian Cross, Thierry voit les Fidji aller loin. Vous, c'est pas trop votre cas, vous?
Non, je voyais pas. Je voyais plutôt les Australiens, mais j'ai vu une équipe australienne vieillissante, diminuée, avec des joueurs blessés, pas de capitaine. Pas de charnière.
Rien du tout, quoi.
Bah, oui, non, mais on ne peut pas gagner avec ça. On ne peut pas gagner sans ça. Sans une belle charnière, un grand capitaine. On ne peut pas. Où sont les Nick Farr-Jones, les Hooper, les Line-Act? Il n'y en a pas. Un demi d'ouverture qui est une catastrophe ambulante. Je veux dire... Alors, Fidji, effectivement, a développé un peu son jeu dans tous les sens, un peu passe à 10. Bon, ils se sont fait prendre. Ils ne pouvaient pas suivre, les vieux Australiens. Ils ne pouvaient pas suivre. Après, voir Fidji aller loin, ça, c'est autre chose.
Il y a débat. Pierre Forest, sur cette équipe de Fidji.
Bah écoutez, moi, je me suis régalé parce que j'avais mis le réveil à 3h moins le quart. J'ai regardé le match, je me suis vraiment régalé. Les Fidji ont fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, je le disais depuis ce matin, ils ont gagné à l'européenne. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont fait leur jeu flamboyant. C'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher.
Un seul essai inscrit et sinon les autres points sur le pied.
Par contre, ils ont été très bons, notamment en mêlée fermée. C'est une surprise devant l'équipe australienne. Et ils ont fait faire des fautes, notamment au sol, beaucoup de fautes. Et ce qu'on pourrait peut-être leur reprocher, c'est de ne pas avoir joué rapidement les pénalités à la main. C'était un peu leur point fort. Quand on a une ligne de trois quarts digne du top 14 avec Juan Nicolo de Toulon, Tuisova de Lyon qui va signer au Racing, et Radradra qui avait fait une pige en Angleterre mais qui revient, je crois, du côté du top 14. Quand on a une ligne de trois quarts comme ça, il faut jouer. Voilà, donc non, cette équipe-là, elle est à sa place. N'oublions pas qu'elle était... Entre autres, à la première Coupe du Monde, elle s'était déjà qualifiée pour les quarts de finale et elle avait déjà failli battre l'équipe de France, sans ce temps avant de l'arrière que Thierry a rencontré par la suite au Jeu du Pacifique. L'arrière, je me rappelle mieux comment il s'appelait, mais voilà. Gros doigt, voilà, ça me revient.
Manu Jalabert, vous qui étiez sur place, comment vous les avez vus, ces Fidjiens? Ils vont aller loin, selon vous, dans cette Coupe du Monde?
Bon, écoutez, moi je pense qu'ils ont, bon, déjà sur le premier match, ils ont été un peu, on va dire, sans faire de polémique, ils auraient pu gagner, quoi. Hier, ils ont gagné, mais ils ont montré surtout qu'ils n'avaient pas de profondeur de banc, parce que dès que le numéro 9 est sorti, les points passaient plus, et les avants derrière, ils n'ont pas, les avants de deuxième main, ils n'ont pas du tout le même talent que les avants de première main. Donc moi, à mon avis, ils vont peut-être passer les quarts, alors en quart, mais ils n'iront pas plus loin.
Donc à la place de l'Australie ou du Pays de Galles, a priori
qui passe,
ouais.
Ben, moi je pense que le Pays de Galles va l'emporter. Hein.
Parce qu'il y a un match décisif pour les Australiens contre
après,
le Pays de Galles.
On ne peut pas préjuger, mais je pense que ce qu'ont montré les Australiens hier, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination. Bon, ils ont des bons éléments, ils ont le numéro 14, là, j'arrive pas à prononcer son nom, mais... Et ils ont deux ailiers qui sont talentueux, deux ailiers et un centre qui sont talentueux, et le reste ça plafonne un peu, quoi. Mais bon, je pense que les Gallois ils ont un buteur, ils ont des gars quand même qui ont de l'expérience. Je pense que même si c'est une équipe vieillissante, le Pays de Galles, ils vont passer, quoi. Et Fidji devrait passer aussi parce que ils ont joué les deux plus gros, il leur reste plus facilité derrière, quoi.
Pierre Forest.
Et après, je les vois pas aller plus loin en quart parce que leur profondeur de banc n'est pas assez.
C'est insuffisant.
Ouais, c'est insuffisant.
Oui, Eric, bonjour. Manu, bonjour. J'avais une question à poser puisque tu étais au stade là. On voit à chaque match, même quand l'équipe de France ne joue pas, Il y a une Marseillaise qui se déclenche dans les tribunes. Comment ça s'explique?
Je crois que c'est les Français qui sont contents d'être réunis entre eux. Je crois, ça s'explique comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène de communion. Et les Français sont super accueillants. Ils adorent partager les moments avec toutes les équipes étrangères, avec les supporters étrangers. Et ils leur disent, bon, bah, ici, c'est quand même chez nous. on va vous montrer que peut-être on va gagner cette coupe. Hein. Voilà. C'est plus de la fierté qu'autre chose. Quoi. C'est bien.
D'accord. Merci.
Merci en tout cas, Manu Jalabert. Le prochain match pour vous, c'est quoi?
Ça va être Samoa-Japon.
Ah, et ben on va parler des Samoa justement, puisqu'on va aborder le groupe D. Merci d'avoir été avec nous, Manu Jalabert, en direct.
Oui, je vous laisse. Hein. Merci.
Bonne journée en métropole.
Salut Pierre, bye. Au revoir.
Alors on va enchaîner justement avec le groupe D, puisqu'il nous reste quelques instants dans cette émission. On a parlé de Samoa un petit peu, de Samoa-Chili tout à l'heure, 43-10 pour Samoa. Il y a l'Angleterre qui a rassuré quand même Thierry Cornaille face au Japon. Victoire 34-12, presque qualifiée l'Angleterre.
Ouais, ils font des matchs moyens, mais ils gagnent. Voilà, donc ils vont certainement se qualifier pour les quarts de finale. Hein, mais ça sera une chance pour l'équipe qui va les rencontrer, parce que je pense que ce sera certainement le plus faible quart de finaliste, certainement. Mais ils ont gagné hein, leurs deux premiers matchs de poule. Et donc, bravo à eux. Hein, il faut quand même gagner, avant tout, de faire du beau jeu. Donc là, ils ont battu le Japon, qui est quand même décevant, qui a, disons, joué une grosse mi-temps, 50 minutes, et puis qui s'est plutôt effondré et qui a un peu une équipe aussi vieillissante et qui ne s'est pas trop renouvelée. Et donc, qui est logiquement battu par l'Angleterre.
Là encore, question poste, le Japon manque de profondeur
Argentine,
de banc.
Oui, Argentine-Angleterre, comme je dis, 1-2, trouble fait, le Japon. Mais un trouble fait qui a raté un peu son effet. Mais je voudrais revenir sur deux points. Le premier, c'est la Marseillaise. Les Français défendent l'Ukraine comme l'Argentine ou le Chili ou le machin. C'est-à-dire, c'est ce goût que l'on a pour les plus faibles, auxquels vient s'ajouter ceux qu'on n'aimerait pas rencontrer plus tard. La défaveur pour ceux qu'on n'aimerait pas rencontrer plus tard, qui peuvent être concurrents, entre guillemets, voilà. Et ça, c'est le problème du jeu comme ça à domicile. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai pas vu dans les Coupes du Monde précédentes les accueillants soutenir comme ça ostensiblement une équipe qui n'était pas la leur. C'est la première fois qu'on voit ça. Et donc on verra là. Moi j'aime bien, j'ai bien été surpris par l'Angleterre. L'Argentine reste l'Argentine. C'est-à-dire c'est l'Irlande des années 70, 60. Donc on va voir.
Pierre Forest, sur ce groupe D, l'Angleterre rassure là avec deux victoires en deux matchs.
Ouais, elle a rassuré. Celle qui ne rassure pas, c'est plutôt l'Argentine, hein, puisqu'ils ont eu le premier match battu par les Anglais avec 5 pénalités et 14 drops. Non, je plaisante. par Ford, l'ouvreur. Ils étaient de repos ce week-end, donc là. Attention à cette équipe d'Argentine, parce que pour gagner, il va falloir, pour sortir du truc, il va falloir qu'ils gagnent tous les matchs. Moi, je miserais une petite pièce sur les Samoa qui ont joué certes contre le Chili, mais qui ont un jeu beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux ordonné également, avec des joueurs, encore une fois, qui apportent leur concours à ces jeunes pur sang de Samoa, c'est-à-dire, il y a ceux qui jouent dans le top 14, hein, il y a notamment Seuteni, le centre de La Rochelle, champion d'Europe, voilà, donc il y a celui, j'arrive jamais à prendre...
Il y a des joueurs d'expérience.
Voilà, du RCT, enfin, il y a quelques joueurs là-dedans. Ce que j'ai vu contre le Chili, à revoir. Et je pense que dans l'hypothèse où ils rencontrent l'Angleterre, qui n'a absolument rien montré, hein, qui est encore... Même si elle a deux victoires, mais elle est prenable par rapport aux Samoa. Voilà. Je miserai les Samoa et l'Argentine.
Angleterre-Samoa, ce sera le dernier match de poule le 8 octobre prochain. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, Thierry Cornaille, sur Samoa?
Ah, moi, je suis
un peu créé la surprise.
Ah oui, largement. Hein, je pense qu'ils peuvent battre aussi bien les Anglais que les Argentins.
Non, je pense. Vas-y.
Oui, et je mise, on verra, mais d'un quart de finale, Samoa-Fidji.
Là, ce serait une belle affiche
Une affiche des Jeux du Pacifique.
Presque. Christian Prost sur le Samoa.
Non, pas du tout. Non. Moi, je pense que l'Angleterre va sortir tranquille avec l'Argentine. En revanche. Je crois que... On constate une chose, c'est que toutes ces équipes, j'allais dire de deuxième niveau, c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche, elles gagnent une mi-temps, ou elles tiennent une mi-temps, puis après elles ont pas de main, elles ont rien derrière, donc c'est fini. Elles s'écroulent.
Un peu comme ce que disait Manu Jalabert tout à l'heure.
On l'a vu avec toutes ces équipes-là, on a vu ça. On a vu, putain, la surprise un peu la première mi-temps, putain, les mecs, il faudra compter avec eux, voilà. Si vous voulez bien, parce que je vois qu'il reste peu de temps, je voudrais terminer sur un sourire.
Allez-y.
Hier, moi, vous savez que les arbitres m'exaspèrent. Et la nouvelle méthode. Et hier, je regardais l'arbitre, et il avait un maillot, Emirates, excellente compagnie aérienne, moi, que j'ai prise et que j'adore, fly better, c'est-à-dire vole mieux. Et je me suis dit, putain, c'est quand même drôle.
<C'est Voilà. rire> Bon, on va terminer sur cette petite blague de Christian. Avec, un mot, Thierry Corneille.
Non, mais je voulais répondre à Christian que les arbitres, c'est comme le vent, la boue, la pluie, etc. Il faut en tenir compte. Mais non, mais pour terminer, c'est pas sur une note très gaie que je voudrais terminer, mais on parle de rugby et je voudrais un peu rendre hommage à deux joueurs de rugby qui viennent nous quitter ce week-end, hein, Paco Quilama et Franco Ouzou.
Le message est passé. Merci en tout cas à tous les trois.
Moi, je voudrais juste rajouter un mot. On a tous une pensée. On a eu
Manu.
Et Manu, on a tous une pensée pour son papa, pour Jean.
Merci à tous les trois. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable spéciale Coupe du Monde de rugby. Excellente soirée sur Radio Rythme Bleu.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.